Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, les effets des attentats, et singulièrement des assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, sur l'école et le travail des enseignants. Le 16 octobre 2020, à la veille des vacances de la Toussaint, Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie, est assassiné à la sortie de son collège. Presque 3 ans plus tard, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur de français, est assassiné à son tour dans son lycée à Arras. Dans les deux cas, on assassine des enseignants pour des raisons qui touchent directement à leur activité professionnelle. Comme à la suite des attentats de janvier et de novembre 2015, nous sommes encore une fois saisis de sidération, de stupéfaction et par la peur. On pensait sans doute que le temps des attentats était terminé, mais ils reviennent brutalement dans l'actualité en s'attaquant à des enseignants et à travers eux, tout ce qu'ils représentent dans la société, à savoir la transmission des savoirs, la citoyenneté, le vivre ensemble. Passé le temps de la sidération commence celui de la réflexion et de l'analyse, car il est essentiel de comprendre ce qui nous arrive collectivement et de mesurer l'impact de ces attentats sur la société comme sur l'école. La publication de l'ouvrage par Ismaël Ferrat et Sébastien Ledoux, « L'école sous le choc, le monde enseignant après l'assassinat de Samuel Paty », publié au bord de l'eau en 2024, nous donne l'occasion de regarder de près ce que ces attentats ont fait sur l'institution scolaire et de mesurer la capacité de la communauté éducative à se mobiliser dans cette épreuve. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 2 chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces questions, à la fois des attentats et la question de la citoyenneté, à commencer par Géraldine Bozek. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'INSPE et au département de sociologie de l'Université de Côte d'Azur et membre de l'unité de recherche Migration et Société, l'URMIS. Vous travaillez sur les questions de discrimination, mais aussi, et c'est pour ça qu'on vous a invité, sur les questions d'éducation à la citoyenneté donc, et on vous doit un rapport pour le CNESCO en 2016 sur ce sujet. Et nous recevons également Sébastien Ledoux, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes historien, maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne, vous avez donc co-écrit cet ouvrage avec Ismaël Ferrat. Vous êtes spécialiste des enjeux mémoriels dans les sociétés contemporaines et on vous doit en 2016, la même année, un ouvrage au CNRS, Le devoir de mémoire, une formule et son histoire, et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique de la revue Diversité porté par l'ENS de Lyon et par l'IFE. Et on écoutera, comme chaque mois, une chronique proposée aujourd'hui par Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
Je suis un militant d'éducation populaire, et la question qui, depuis 3 jours, me ronge, au-delà, comme vous, de ma participation à la colère publique, comme l'évoquait Durkheim déjà, qui nous rassemble et qui nous rassemblera demain sans doute. C'est comment se fait-il que 3 jeunes adultes français n'ont pas trouvé d'autre raison de vivre que d'assassiner leurs semblables ? Comment se fait-il que 3 jeunes adultes français tous passés par l'école, peut-être ayant fréquenté les centres sociaux, peut-être étant partis en colonie de vacances avec la Ligue de l'enseignement, peut-être même, nous le saurons sans doute, grâce aux investigations médiatiques, ayant été formés, pourquoi pas, au métier de l'animation, il semble que l'un d'entre eux était éducateur sportif. Comment se fait-il que 3 jeunes adultes français, passés finalement par des institutions éducatives, comme nous le disons, formelles ou non formelles, n'aient plus d'autre raison de vivre que celle de tuer leurs semblables? Et évidemment, je n'ai aucune réponse à cela.
Alors je pense que vous avez sans doute reconnu la voix d'Éric Favet, qui était alors secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement. On est le 10 janvier 2015. Donc quelques jours après les attentats de Charlie et de l'hypercacher, et on sent dans sa voix ce sentiment hein, de toute l'émotion et la sidération que décrit bien aussi Jérôme Truc dans son travail sur l'effet des attentats, la sociologie des attentats. Et vous avez aussi, Sébastien Ledoux, écrit ce livre en reprenant cette expression « sous le choc ». Est-ce que, voilà, comment on peut comprendre cet effet de sidération, cet effet de stupéfaction qu'on entend dans ces paroles?
En fait, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que il n'est pas le seul, il n'est pas du tout le seul, et puis à réagir comme ça en janvier 2015. C'est-à-dire, et là, il le fait à travers la sidération, l'étonnement, mais qui va se transformer dans une frange de, je dirais, de partis politiques, d'essayistes et de médias, en une accusation quelques jours plus tard. C'est-à-dire, finalement, comment on a pu, l'école française a pu créer elle-même des terroristes qui s'en prennent à des citoyens et des citoyennes français. Alors, je vais juste indiquer aussi, en même temps, remettre en perspective historique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est là qu'on prend la mesure de la figure de ce qu'on appelle les homegrown terroristes dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire des terroristes qui se créent eux-mêmes dans leur propre pays. Alors que dans les années 90, on a déjà eu des attentats en France, mais dans les années 80-90, en fait, il y a deux chercheuses qui ont fait une analyse des discours médiatiques à ce moment-là, et le terroriste est toujours ramené à une figure de l'altérité. Il appartient toujours, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il appartient toujours à d'autres pays. Et là, votre son, si je puis dire, rejoint cette prise de conscience-là qui se fait alors, qui ne s'est pas autant faite, je trouve, en 2012 avec les attentats de Mohamed Merah. Et là, c'est vraiment l'un des chocs premiers, c'est celui-là. C'est vraiment celui qui est exprimé, c'est-à-dire comment l'école a pu fabriquer des terroristes. Et donc, après, avec une mise en accusation, mais peut-être que là, on aura un petit peu plus le temps d'en parler, mais une mise en accusation de l'école avec un discours de crise à l'appui qui va se propager, je dirais, à la fois dans les médias et dans la classe politique, et même au sein du gouvernement, puisqu'il y a des tensions au sein du gouvernement où Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'époque, est montré du doigt pour cacher, vous savez, les fameux nombres d'incidents. Et donc, on considère que ces chiffres sont faux. Les chiffres qu'elle amène, des nombres d'incidents ensuite, après les minutes de silence, au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, sont faux. Enfin, voilà, il y a toute une rhétorique autour de ça. Et je dirais, évidemment, pour relier avec l'attentat de Samuel Paty, qu'on est toujours dans ce cadre-là, après l'attentat de Samuel Paty, avec évidemment plein de spécificités, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une réplique là-dessus.
Alors Géraldine Bozek, puisque vous, comme je le disais en introduction, vous avez produit un rapport pour le CNESCO en mars 2016 de mémoire, donc j'imagine que vous l'avez conçu dans un contexte qui est celui-là aussi, sur cet élément, on va dire, comment il est possible que des jeunes Français qui sont passés par l'école française aient ce sentiment d'appartenance et à une citoyenneté. Et votre rapport portait bien sur l'éducation à la citoyenneté. Voilà, comment vous, ce contexte-là, vous a travaillé à l'époque pour produire ce rapport, par exemple?
Alors, au risque de vous décevoir, dans ce rapport, je mettais en cause ce qui est un peu sous-jacent dans le témoignage qu'on a entendu, qui est l'idée d'une grande responsabilité de l'école dans ces attentats, aussi bien en 2015, en 2016 qu'en 2020. Et la sidération, je pense, des enseignants vient en partie aussi de là. Elle est liée à l'événement tragique, mais elle est aussi liée à la perception qu'ils et elles vont encore une fois être en première ligne et devoir se comporter comme de bons soldats de la République. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on en demande peut-être un peu trop à l'école. Elle n'est pas la seule institution publique. Alors, l'école a historiquement eu un rôle très important à jouer en matière de citoyenneté. Donc, ce n'est pas quelque chose de linéaire hein, sur la période qui va de la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Il y a des moments de tension, il y a des définitions un peu différentes et puis aussi conflictuelles hein, qui sont données de cette éducation à la citoyenneté. Mais en tout cas, dans la période récente, à partir en gros du milieu des années 1980, on réaffirme très fortement ce rôle en pensant qu'en dehors de l'école, il n'y a pas ou peu d'institutions qui peuvent assurer le lien social et aussi l'attachement, on va dire, aux valeurs politiques centrales de notre régime politique. On aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est là un des ressorts de la difficulté que vivent les enseignants.
Sébastien Ledoux, vous avez travaillé sur la minute de silence aussi, donc qui est un événement, j'allais dire, qui est mobilisé pour marquer les esprits, mais aussi, quelque part, peut-être travailler sur l'émotion collective, et puis en même temps pour... Alors je ne sais pas si on peut aller jusque des formes de deuil, quelque part, de manière un peu collective aussi. Quelle est la place de ces temps-là sur, par rapport à ces événements tragiques, qu'on parle de 2015, mais aussi de 2020 et de 2023, évidemment?
En fait, ce dispositif, on va l'appeler un rituel de deuil, hein, mais on peut l'appeler aussi, on peut dénommer cela comme un rituel finalement civique, puisqu'il va être pensé comme cela par l'institution scolaire et par les médias notamment. Ce rituel, il joue un rôle énorme. Il joue un rôle énorme dans les réactions post-attentat, dans ces moments post-attentat, ne serait-ce que par la chronologie, c'est-à-dire dès le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, il y a donc cette minute de silence le jeudi 8 janvier 2015, donc qui est demandé à travers toute la France, hein, tout le territoire français et jusqu'aux plus petites écoles. Alors évidemment, on ne dit pas que c'est obligatoire dans les petites écoles, mais enfin, j'ai pu rencontrer des enseignants de maternelle qui l'ont fait, cette minute de silence avec leurs élèves. Hein, donc c'est arrivé jusque même dans les petites classes. Il est considérable parce qu'effectivement, c'est aussi cela qui va jouer un rôle de cristallisation, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez avoir ce rituel-là qui est pensé par les gouvernants. Hein. Je reprends François Hollande, donc c'est-à-dire il y a un ennemi et il faut s'unir face à cet ennemi-là. L'école va être mise en avant comme une sorte de ciment d'unité nationale.
Alors, on y reviendra aussi, mais c'était aussi l'époque où on a mobilisé l'école pour les valeurs de la République. C'est ce qui est joué à partir de janvier 2015.
Oui, tout à fait. Mais je dirais que ce moment-là, en fait, va à la fois cristalliser et va être une sorte de levier pour tester. Alors, c'est comme ça que c'est repris après, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, pour tester l'allégeance des élèves, et notamment l'allégeance des élèves musulmans. Donc, on est vraiment dans cette configuration où un rituel, je dirais que s'il n'y a pas de minute de silence le lendemain de Charlie Hebdo, je pense que l'histoire est autre. Hein, l'histoire se serait faite autrement. Mais, là, il va prendre ce rituel-là va prendre une signification tout autre que, par exemple, pour 2001, puisque ce n'est pas inédit. Hein, on a déjà fait une minute de silence dans le cadre terroriste. Hein, donc, en 2001, après les attentats aux États-Unis du 11 septembre, on a effectivement l'institution scolaire a mis en place deux minutes de silence. D'ailleurs, il y a eu à ce moment-là déjà quelques incidents, mais sans aucune commune mesure avec la proportion que cela va prendre après janvier. Et en fait. Alors, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai écrit aussi dans le livre. Ce qui est assez intéressant et assez paradoxal, c'est que quand il est mis en avant en fait, des incidents, on a l'impression qu'il n'y a jamais de réponse éducative. Donc, je commence à parler des réponses éducatives sur le terrain, là. Il y a une distorsion entre une mise en récit de 7 minutes de silence à travers ces incidents, et le politique est amené à répondre à cela, et Najat Vallaud-Belkacem, c'est très clair, a été amené à l'Assemblée nationale à répondre à ces incidents quelques jours plus tard. Et puis, sur le terrain, en fait, il y a toujours des réponses éducatives. Et alors que, quand on écoute les médias, on a l'impression qu'il y a à la fois une faillite scolaire, une faillite du lien entre les élèves et la nation, et la citoyenneté. Donc, voilà, c'est un discours de crise dominant, mais en fait, en réponse, sur le terrain, il y a des réponses.
Voilà, on pourra y revenir sur ces réponses, Géraldine Bozek, mais sur ce temps de l'émotion et ce temps, qu'est-ce qui se construit du point de vue de l'éducation, de votre point de vue, sur ces temps un peu dramatiques et chargés d'émotions, donc.
Je pense que en matière civique, les rituels sont efficaces face à une telle tragédie. Ils avaient sans doute une portée émotionnelle que n'auraient pas d'autres initiatives. Néanmoins, je rejoins ce que disait mon collègue. En fait, le temps des réponses éducatives, mais au-delà des réponses aussi, de la mise en débat de ce que tout cela signifie dans l'espace de la classe est nécessaire. Et je pense que les enseignants et enseignantes ont été peu armés, en fait, pour faire ça. Ce que j'avais pu constater donc immédiatement après l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, c'est aussi beaucoup d'interrogations, d'hésitations, même de peur des enseignants et enseignantes qui se sentaient singulièrement peu préparés pour répondre aux questions nombreuses des élèves. Et j'ai envie de dire plus des questions que des oppositions, hein, parce que ce qui a été mis en scène beaucoup dans les médias après 2015 comme après 2020, ce sont les contestations, les incidents qui ont pu exister, certes, mais dans la majorité des élèves avaient surtout en fait des questions. Et les enseignants ne se sentaient pas toujours bien préparés sur cet aspect-là.
Ça fait une transition avec la chronique d'Héloïse autour de ces questions vives, la question du débat et des objets finalement que ça soulève, ces événements tragiques.
En 1997, Yves Chevallard, un didacticien, affirme que l'école est en crise parce qu'elle est coupée des problèmes de société. Pour lui, il faut introduire à l'école les questions vives. Les questions vives mobilisent des savoirs incertains ainsi que des enjeux éthiques. De ce fait, elles sont controversées et elles sont très médiatisées aussi. Pêle-mêle, on pense à l'égalité des sexes ou de genre, au développement durable, à la colonisation, à la laïcité, aux religions, etc. En 1999, l'éducation civique, juridique et sociale est créée. Cette nouvelle discipline témoigne de l'entrée de ces questions à l'école. Et cela devient en 2015 l'enseignement moral et civique qui vise, je cite, « à transmettre et faire partager les valeurs de la République ». Il s'agit de former l'esprit critique des futurs citoyens en mettant les élèves en activité ou en débat, notamment sur des questions socialement vives. Et de fait, depuis les années 2010, il y a une tendance générale à davantage intégrer ces questions dans les programmes scolaires. Un article du Monde montre que les attentats de janvier 2015 ont rendu l'école poreuse aux problèmes de société. Il y a eu en retour, je cite, « une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République ». En clair, l'école reçoit une mission sociopolitique et sociétale. Il faut rendre les élèves républicains.
Pour autant, quelles sont les difficultés qui se posent pour intégrer ces questions dans l'enseignement?
Alors, la première difficulté est que l'enseignement scolaire peut faire polémique, dès lors qu'il porte sur des questions sociétales et non pas sur des savoirs scolaires qui sont stables et consensuels. De 2012 à 2014, la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, avait tenté d'introduire à l'école la lutte pour l'égalité filles-garçons par le biais d'un ABCD de l'égalité. Seulement, ce projet a dû être abandonné à cause de la contestation sociale. Et du point de vue des enseignants, les questions vives posent des difficultés dans la relation avec les élèves. Les professeurs Yves Alp et Angela Barthes, dans un article de 2013, relèvent, je cite, « une échelle du risque ». Selon qu'une question touche plus ou moins vivement les élèves, il est plus ou moins aisé de leur faire prendre du recul dessus. Par exemple, en SES, traiter de la question de l'inégalité des chances en prenant le cas des enfants d'immigrés affecte les élèves qui sont eux-mêmes enfants d'immigrés. Il est aussi délicat pour un enseignant de traiter de savoirs qui ne sont qu'incertains, puisque, par définition, une question vive ne fait pas consensus.
Alors, on comprend bien les difficultés, mais du coup, quel est l'apport de l'école pour justement traiter ces questions-là?
Alors, tout d'abord, quand l'école omet une question vive, cela cause parfois des problèmes sociaux. Selon un sondage de l'IFOP en 2014, l'opinion publique juge que l'on ne parle pas assez de la guerre d'Algérie à l'école. En 2005, dans La fracture coloniale, l'historienne Sandrine Lemaire pointe que le fonctionnement du système colonial est masqué dans les manuels d'histoire du secondaire. Or, c'est un terreau de frustration pour les élèves dont l'histoire personnelle et familiale résonne avec l'histoire de la colonisation. Que l'école prenne en compte une telle question est important parce que cela répond ici à un désir de justice et de reconnaissance. Par ailleurs, l'école a une façon spécifique de traiter les questions vives. Ce n'est ni le lieu d'un conflit d'opinion, ni celui d'un discours partisan. Ainsi, dans un article de 2017, les chercheurs Laurence et Jean Simoneau valorisent la posture de partialité exclusive pour l'enseignant. Dans un débat, l'idée est d'amener les élèves à un point de vue conforme au discours scientifique et républicain. L'école apporte aussi des connaissances scientifiques, évidemment. Ainsi, une analyse sociologique en cours de SES peut étoffer la question de l'inégalité des chances. Et elle peut brouiller les certitudes des élèves, ce qui a du bon. En effet, cela correspond à la rupture épistémologique qui a été théorisée par le philosophe Gaston Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique. C'est l'idée que, pour accéder à une connaissance scientifique, on doit se défaire de toutes nos certitudes. Enfin, l'école participe à prendre en charge les émotions individuelles et collectives, en particulier quand des drames surviennent. Après les attentats de novembre 2015, un document sur Eduscol appelait, je cite, « à soutenir les élèves dans la gestion de leurs émotions ». Dans un article de 2017, Laurie Boussaguet et Florence Fauché expliquent que les élèves sont insérés dans une émotion collective et nationale à l'occasion des minutes de silence. Et le dialogue pédagogique autour d'un attentat peut être une manière de travailler notamment sur son poids émotionnel.
Merci Héloïse. Alors, Beaucoup de sujets ont été balayés par Héloïse dans sa chronique. Quelle pourrait être, Géraldine Bozek, votre réaction parce que finalement, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur finalement à quoi sert cette éducation à la citoyenneté, si ce n'est aussi à aborder des questions qu'on appelle vives ici, mais qui sont finalement des questions portées dans la société, dans le débat public.
Alors effectivement, ça crée des difficultés et des tensions parce que voilà, quand on s'intéresse un peu à la manière dont fonctionne la culture scolaire ailleurs qu'en France, on voit que l'école française est quand même, alors j'accentue un peu le trait, mais est quand même particulièrement centrée sur la transmission de savoir. Et donc, lorsqu'on lui demande, comme ça a été rappelé, dès la fin des années 1990, en particulier au lycée, de mettre en place une éducation, donc à l'époque qui s'appelait civique, juridique et sociale, davantage centrée sur la discussion d'enjeux politiques et sociaux, une difficulté se présente aux enseignants. Alors, ça fait quand même un certain temps maintenant qu'on insiste. Alors, c'est moins vrai à l'école primaire et au début du collège, mais c'est plus vrai à la fin du collège et au lycée, qu'on insiste sur l'organisation de débats réglés. Enfin, il y a eu plusieurs dénominations. Et c'est vrai, quand on regarde les programmes du lycée, alors ça dépend un peu des différentes versions, mais il a été beaucoup question de faire débattre les élèves, d'organiser des débats sur des enjeux qui sont parfois très controversés dans le débat politique. La question est comment c'est mis en place. Et là, à la fois dans mes enquêtes, mais dans celle d'un autre collègue qui s'appelle Thomas Douniès, qui a travaillé, qui a été voir en fait comment c'était mis en œuvre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait une rescolarisation de la manière de faire de l'EMC et que très souvent, en fait, quand il y a véritablement une discussion entre élèves et voire des désaccords, ce qui est normal s'agissant de questions vives, l'enseignant reprend la main pour rappeler un certain nombre de savoirs sur lesquels finalement le débat ne porte pas ou pas directement, sans expliciter en fait ce qui serait son rôle, puisqu'on parlait de l'impératif de neutralité politique de l'enseignant. Ce qui serait son rôle, c'est d'expliciter les lignes de clivage qui peuvent exister dans une société à propos de telle ou telle question, mais pas de réduire ces lignes de clivage ou de les laisser dans l'implicite. Et bien souvent, c'est ce qui se passe parce que les enseignants ont peur des débordements, craignent que ça se transforme en conflit ouvert dans la classe, craignent aussi de prendre parti. Vous aviez évoqué, là, dans ce que vous avez présenté, la posture d'impartialité exclusive ou de neutralité exclusive. Ça fait référence à quelqu'un qui s'appelle Kelly. C'est lui qui a proposé différentes façons, différentes postures de l'enseignant en classe. Personnellement, moi, j'ai plutôt défendu non pas de la neutralité exclusive, mais de l'impartialité engagée, qui consiste plutôt pour l'enseignant à exprimer aussi parfois sa propre positionnalité et le moment où, en fait, parce qu'il n'y a pas une séparation claire entre valeurs, savoir, entre croyances d'un côté, discours scientifique de l'autre. C'est un petit peu naïf de penser que la séparation est facile. Et donc, ce que disait Kelly, c'est que si l'enseignant explicite en fait quelle est sa position, cela permet aussi de montrer aux élèves que l'enseignant n'est pas quelqu'un de désengagé sur tous ces enjeux-là. En revanche, son rôle est aussi de favoriser la contradiction et de montrer qu'il y a et de valoriser en fait la pluralité des points de vue sur une question, mais pas de taire le débat, ni non plus de faire comme si lui-même n'était pas à un moment ou à un autre engagé. Parce que quand on observe réellement ce qui se passe dans les classes, on voit bien que l'enseignant est engagé, on voit bien qu'il n'est pas toujours d'accord avec ce que disent les élèves et il l'exprime plus ou moins directement.
Pour prolonger le propos de ma collègue, je dirais que les enseignants, de par leur culture professionnelle, sont plutôt tyrannisés, avec un peu de provocation, je le dis avec un peu de provocation, sont plutôt tyrannisés par le normatif républicain et par le savoir. J'avais publié l'an dernier avec Bénédicte Giraud, justement, et Pierre Rocola, un ouvrage « Histoire nationale et narration minoritaire », avec un collègue qui montrait très bien que entre les manuels scolaires allemands et français, sur la question coloniale, les manuels scolaires allemands, dans les versions les plus récentes, en fait, font émerger tout le temps des débats, à chaque fois, alors que les manuels scolaires français restent sur une transmission du savoir.
Descriptive.
Oui, tout à fait descriptive. Donc, on n'est pas du tout dans la même culture. Il faut s'approprier cette culture du débat, alors qu'on est plutôt effectivement dans une, comment dire, dans, toujours dans cette image du bon prof qui sait, en fait, hein, qui, voilà, l'image du bon prof, c'est celui qui va savoir, voire peut-être qui va savoir transmettre ses connaissances, mais certainement pas celui qui crée le débat. Et le débat contradictoire, comme disait ma collègue, justement, hein, en étayant des arguments, enfin, vraiment tout ce travail argumentatif qui est essentiel à la démocratie. Il y a un énorme paradoxe dans ces moments post-attentat, puisque moi, j'ai parlé de scolarisation de l'attentat en 2015, en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement la mise en place d'un rituel de deuil qui demande une unanimité scolaire. Bon, donc on est à l'inverse. Enfin, c'est une vraiment on crée une norme hein, à travers ce rituel de deuil, bien sûr. Hein, il y a du normatif, il y a du symbolique, il y a du normatif. Donc c'est vraiment à l'inverse justement des débats contradictoires. Alors à la fois on va demander en janvier 2015 la lettre de Najat Vallaud-Belkacem, c'était clair. Hein, c'était à la fois eh bien il faut effectivement que tous les agents et les élèves finalement observent une déséquence, mais on fera quand même un débat. Et c'est là où ça a effectivement été difficile parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est évident que les enseignants eux-mêmes étaient pris par l'émotion, encore plus en 2020, mais déjà en 2015, ils sont pris par l'émotion, surtout ceux qui sont pris justement proches de la culture, je dirais, de Charlie Hebdo, de la culture Charlie Hebdo. Hein, ça revient régulièrement dans les entretiens que j'ai pu mener, ça. Également Emmanuel Saint-Lucien, qui a travaillé là-dessus aussi, l'a constaté. Hein. Donc, on est avec cette proximité-là de la part des enseignants. Ils ressentent une proximité avec les victimes, donc ils se sentent concernés. Pour faire écho à la notion de concernement de Jérôme Truc, qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc là, en fait, on est sur cette difficulté à, comment dire, faire un débat, entendre de la part des élèves des éléments, des arguments qui peuvent parfois choquer, justement, les enseignants, parce qu'ils sont proches de Charlie Hebdo, ou en 2020, bah parce qu'effectivement, c'est l'un de leurs collègues qui, quand même, qui a été assassiné pour un acte pédagogique, hein, encore une fois, ça a été très bien vu dans les entretiens que j'ai pu mener après. C'est exactement ce qui ressort, ce que j'ai écrit dans le livre aussi. Hein, c'est ce qui ressort, c'est ça. C'est un collègue a été tué parce qu'il faisait son métier. Et donc, ils sont amenés à, comment dire, animer. Enfin, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas à mener des débats argumentatifs contradictoires sur des sujets extrêmement sensibles. Il faut être pointé quand même ce malentendu qu'il y a eu en janvier 2015, tel qu'il m'est apparu après dans les entretiens, notamment avec les élèves, les enseignants et les élèves. C'est le mot d'ordre « Je suis Charlie » et le refus de certains élèves justement de souscrire à ce mot d'ordre « Je suis Charlie » qui a été pris comme une remise en cause justement des valeurs de la République, alors que pour eux, bah, c'était un conflit de loyauté considérable puisqu'ils ne se sentaient pas Charlie et qu'ils ne souhaitaient pas adhérer à la ligne, on va dire, pour le dire vite, aux caricatures de leur prophète. Donc là, il y a vraiment des éléments, au contraire, à mettre en avant dans le débat argumentatif et qui peinent à émerger de par le poids du symbolique et de par ensuite la récupération politique et médiatique. Quoi.
Alors, il y a une dimension que vous soulignez dans l'ouvrage avec Ismaël Ferhat, c'est le à la fois, le, vous appelez ça un entrelac, hein, entre l'acte pédagogique et l'intimité de la situation, entre finalement des individus qui se sentent, comme vous venez de le dire, hein, touchés également, concernés, en tout cas de près, et puis la difficulté ou l'absence de réponse collective de mobilisation collective à l'échelle d'une équipe. Je ne parle pas de l'institution dans son discours, mais plutôt d'une équipe, d'un établissement, pas à faire corps, mais à construire une réponse collective.
Alors, ce qui est marquant dans les réponses qu'on a pu avoir au questionnaire et puis avec les entretiens en 2020, c'est à la fois cette dimension de l'intimité où les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement sont extrêmement choqués, hein, donc sont sous le choc et de façon extrêmement intime, et en même temps la mobilisation de pratiques pédagogiques, puisque les mots qui sont utilisés par les enseignants, c'est ça qui les caractérise, sont des mots autour de l'élève, autour de pratiques pédagogiques, de où ils vont citer le tableau, ils vont se remettre en fait très vite dans l'éthos de leur métier finalement, hein, qui est de transmettre quelque chose, de faire débat quelquefois, alors que c'est arrivé avec quelques enseignants que j'ai pu rencontrer, mais en tout cas de transmettre ce qui a pu se passer. C'est ça la particularité de cette réaction qui tranche avec le discours médiatico-politique que nous on a pu justement analyser par ailleurs, hein, qui est beaucoup plus dans le général, dans la question des valeurs, de la République, alors que les enseignants, dans leurs réponses, sont beaucoup plus, je dirais, concrets dans, justement, dans leur métier, hein, dans leur métier d'enseignant. Ils répondent en tant qu'enseignants à cet acte qui, par ailleurs, les a profondément bouleversés de façon intime. Donc oui, il y a vraiment les deux facettes qui sont là, avec parfois quelques tiraillements, hein, puisque on cite aussi dans les établissements scolaires des établissements qui se sont à nouveau, après janvier 2015, à nouveau en 2020, reposés sur les enseignants d'histoire. Donc c'est lettres histoire en lycée pro et puis c'est histoire géographie en collège ou en lycée général, et où avec justement des enseignants d'histoire qui ont du mal, qui ont beaucoup de mal, puisque évidemment la boucle est bouclée quelque part, puisque c'est l'un des leurs, encore là, enfin, un prof d'histoire géographie qui a été assassiné. Donc voilà, là il y a des tiraillements sur la réponse collective, parce que la réponse elle n'est pas si collective que ça.
Alors Géraldine Bozec, vous aviez contribué à la réflexion autour de l'enseignement moral et civique et de sa mise en œuvre dans cette éducation à la citoyenneté. Est-ce que vous partagez ce constat sur la difficulté à la fois individuelle, mais aussi collective, à prendre en charge cet enseignement en général, mais dans ces situations très particulières?
Alors, sur l'aspect collectif ou individuel de la gestion des choses, s'agissant spécifiquement des attentats, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en 2015, je l'avais noté aussi, hein, il y a eu beaucoup de réponses individuelles. Et la question que se posaient beaucoup d'enseignants que j'avais interrogés, c'était « mais qu'est-ce que je vais… » Il m'avait raconté, hein, « qu'est-ce que je vais dire demain en classe à mes élèves ?» Et donc, ils se posaient vraiment aussi des questions tout à fait factuelles. Hein, ils ont parfois travaillé la veille aussi pour pouvoir expliquer voilà, ce qu'était l'islamisme, par exemple, et tout un tas d'éléments, parce que finalement, les élèves avaient aussi des questions comme ça, tout à fait relevant de savoir en réalité. Sur la difficulté à construire une réponse collective, j'ai envie de dire que l'éducation à la citoyenneté n'est pas spécifique. En fait, il y a beaucoup de travaux en sociologie de l'éducation qui montrent la difficulté en France qu'ont les enseignants à travailler en équipe. Donc, ça n'a rien de déceptionnel et de lié à cette question. Là où c'est un petit peu plus spécifique, c'est que cela supposerait que les enseignants soient d'accord sur la réaction à adopter. Or, ce qu'on voit, enfin moi dans mes travaux sur les questions de laïcité, de gestion des signes religieux dans les établissements, ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup d'établissements, il y a des désaccords parfois très vifs au sein des équipes pédagogiques qui n'ont pas la même vision du tout des choses et des réponses à apporter. Et donc, il est sans doute illusoire de penser que partout, dans tous les établissements, il peut avoir une réponse collective homogène. Le « je suis Charlie » a un petit peu comme même cacher aussi des désaccords au sein de la profession. Et donc, moi, j'en ai observé beaucoup hein, sur le terrain, par exemple, s'agissant de la gestion donc, de certains vêtements portés par les jeunes filles, donc plus les voiles ou plus les foulards, mais ce qui était désigné comme étant des robes longues, par exemple. Et ça, c'est en 2015, j'avais un établissement qui avait décidé de les interdire quand un autre établissement n'était pas du tout sur cette position. Et il y avait dans ces deux lycées-là, des controverses et voire des conflits entre les enseignants sur cette question-là. Autre chose là que j'aimerais bien aussi, un autre point que j'aimerais bien aborder, c'est donc on assigne à l'école une mission qui est celle de transmettre et d'enseigner les valeurs de la République. Mais bien souvent, en fait, l'enseignement moral et civique se contente de présenter les grands principes de la République, de présenter les droits, la démocratie. Et finalement, ce qui manque complètement dans cet enseignement, c'est l'examen de la réalité des choses. Et les élèves ne sont pas des idiots culturels, et donc ils constatent eux-mêmes dans leur vie de tous les jours que l'égalité, c'est un joli principe, mais qu'il n'est pas atteint dans tout un tas de domaines, à commencer parfois par ce qu'ils peuvent observer du côté de leurs parents ou même de leur propre côté. Les élèves sont tout à fait conscients, pour beaucoup, des inégalités, des discriminations qu'ils peuvent vivre directement ou qu'ils peuvent constater dans leur entourage. Et donc, c'est peut-être ça, faire œuvre d'éducation à la citoyenneté, c'est pouvoir discuter avec les élèves de ces questions-là, sur lesquelles ils ont des choses à dire. en réalité, plutôt que de voilà, retracer une histoire un peu idéalisée de la conquête des droits en France. Ce n'est pas pour rien aussi que cet enseignement est confié à des enseignants d'histoire et géographie très majoritairement. Je pense aussi que les enseignants de SES seraient particulièrement intéressants à mobiliser parce que justement, ils ont moins une entrée historique et ils ont plus une entrée en fait, de sociologie, de sciences politiques. Donc, ça permet aussi d'aborder les choses un peu autrement. Oui, voilà. Aussi plus de sciences sociales, en fait, quand même, mais ça permet d'aborder les choses un peu autrement, d'être parfois plus en prise avec des débats d'actualité et d'être habitué à gérer, en fait, ces questions qui sont parfois débattues politiquement. Donc, tant qu'en fait, l'éducation à la citoyenneté restera quelque chose d'assez... un exposé assez édifiant, en fait, de ce que sont que les grandes valeurs et les droits en France, je pense qu'il n'aura pas beaucoup d'intérêt et qu'il ne passionnera pas beaucoup les élèves. En tout cas, c'est ce qu'on constate quand on fait des enquêtes dans les classes.
Sébastien Ledoux, dans votre ouvrage, vous signalez ou vous soulignez aussi, et je trouve ça intéressant qu'on en parle, un fossé plus ou moins grandissant, mais qu'on pourrait... signaler comme tel entre les enseignants et les personnels d'encadrement, entre le discours institutionnel d'un côté, puisque vous venez de dire finalement, Géraldine Bozek, entre les discours et puis le réel, entre le prescrit hein, qui parle d'un côté et l'agir de l'autre, et que finalement, et vous citez je crois le rapport qu'Éric Debarbieux et Benjamin Moignard avaient rendu aussi en 2022 sur l'école de la défiance, donc ils vont très très loin... Dans le discours, voilà. Mais est-ce que, du coup, ces événements-là ne sont pas aussi les symptômes de ces ruptures ou de ces fractures à l'interne de l'institution ?
Oui, c'est exactement. Hein, c'est vraiment, avec Ismaël Ferhat, c'est vraiment ce qu'on met en avant. C'est-à-dire que ça met en lumière des dissensions et des tensions au sein même du monde scolaire qui sont préexistantes aux attentats. Hein, les attentats jouent un peu le rôle de révélateur, mais évidemment, elles existent déjà. Et donc, ce qui est très marquant dans l'enquête qu'on a pu mener en 2020, enfin, dans le questionnaire plutôt plus exactement 2023, c'est la prégnance, en fait, de cette défiance vis-à-vis de la hiérarchie. La hiérarchie est citée systématiquement en termes négatifs, hein, donc quand le mot même, hein, puisque c'est une analyse lexicographique qu'on fait également, quand le mot même apparaît, le mot hiérarchie, il est systématiquement négatif. Et donc, cela va, je dirais, ça vise deux aspects, hein, à la fois la direction d'un établissement scolaire, hein, donc où des enseignants qui ont pu répondre mettent en cause la direction de l'établissement scolaire, et puis ça vise au-delà, justement, le ministère de l'Éducation nationale. Alors, peut-être qu'il faut rappeler quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais... qui a été extrêmement important après Samuel Paty, hein, le jour de la rentrée, c'est l'annulation des 2 heures de préparation.
De concertation.
Parce
que c'était juste avant les vacances, et du coup, il y avait les 2 semaines de congé, c'était pour le lundi de reprise. Ouais.
Et c'est vrai que, bon, comme moi, quand j'avais été sur le terrain ensuite, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après, dans les semaines qui ont suivi, c'était chaque fois ça qui revenait, si vous voulez. C'était vraiment la réaction des enseignants. Un écœurement, une colère, une tristesse. Enfin, c'était tout était un peu mélangé au niveau émotionnel pour justement faire preuve d'une incompréhension totale et viser le ministère comme celui qui n'a pas compris en fait, hein, comme des acteurs qui vivent dans leur bulle au sein d'un cabinet, mais qui ne comprennent pas la réalité du terrain puisque au départ Jean-Michel Blanquer donc avait institué 2 heures, 1 heure d'échange entre collègues, 1 heure d'échange avec les élèves, puis la minute de silence. Et 3 jours avant la rentrée, en fait, ces 2 heures ont été supprimées. On en est resté pour des raisons de sécurité au rituel de la minute de silence. Et donc là, en fait, effectivement, ça a été vraiment extrêmement fort, ce rejet-là, de ne pas se sentir compris, de se sentir seul. Je crois qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent depuis le début de l'émission, mais l'un des mots qui ressort le plus, c'est solitude et seul, hein, du questionnaire. Et donc, c'est ce sentiment de, justement, puisqu'on parlait de la réponse collective, de se sentir complètement isolé, à prendre en charge une réponse à la fois qui les a, enfin, sur un événement qui les a bouleversés et face aux élèves, à pas forcément savoir quoi faire de cela. Et donc, oui, on vise en priorité à ce moment-là le ministère pour exprimer tout un ras-le-bol. Ça vient aussi 2 ans après le pas de vague. Donc, ce mot-là, pas de vague, revient aussi régulièrement dans les retours des...
Et on sort du confinement.
Des questionnaires, on sort du confinement. Et donc, on est effectivement dans une grande défiance vis-à-vis de l'institution qui ne comprend pas en fait la réalité du terrain des agents, de ces acteurs-là. Et voilà.
Géraldine Bozek, finalement, vous parliez des dissensus entre les enseignants qui ne se retrouvaient pas tous forcément dans un certain discours médiatique ou politique. Est-ce que vous observez dans ce paradoxe qui veut que l'école transmette des valeurs et de la citoyenneté et en même temps le constat d'une sorte de fragmentation interne de cette institution avec des motifs ou des visées qui sont parfois plus que divergents?
Oui, mais est-ce qu'il peut vraiment en être autrement? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que les valeurs de la République? On peut dire liberté, égalité, fraternité, mais quel type de liberté, par exemple? La liberté religieuse qui peut entrer en conflit avec d'autres formes de liberté. En fait, toutes ces questions-là sont par essence politiques et il est tout à fait normal que les enseignants et enseignantes ne soient pas d'accord parce que ce sont des questions politiques. C'est pour ça que je reviens un peu à ce que je disais au début. La posture d'impartialité engagée consiste à prendre acte de ça, que nous sommes en train de parler d'enjeux qui sont controversés et que l'objectif n'est pas de rechercher un consensus. C'est pour ça que je trouve que la référence aux valeurs de la République est très, très incantatoire et donc du coup ça perd un peu de son efficace politique. Je pense peut-être que pour mieux enseigner ces valeurs de la République, il faudrait aussi que l'école s'interroge elle-même dans ses fonctionnements routiniers. Est-ce qu'elle est elle-même un espace égalitaire, et comment faire pour que les élèves se sentent plus à leur place, mieux accueillis, moins parfois justement traités de manière injuste à l'école? C'est ça aussi la citoyenneté au quotidien, c'est faire que les élèves comprennent que les valeurs de la République qui sont mises en avant ont une force symbolique et ont aussi une force matérielle et vraiment des conséquences. Quand on fait vous disiez au tout début, je travaille aussi sur les questions de discrimination et de racisme. Quand on fait des entretiens avec les élèves, on se rend compte sans grande surprise que c'est bien souvent à l'école qu'ils vivent pour la première fois, parfois très jeunes, des expériences de racisme. Donc la question, pour vraiment éduquer à la citoyenneté, la question devient alors comment l'école gère le racisme que les élèves peuvent rencontrer en son sein, pas toujours le seul racisme entre élèves. Parfois, il y a beaucoup aussi de récits d'élèves qui concernent du racisme vécu de la part des enseignants. Donc, le risque, en fait, c'est qu'il y ait un divorce, une distorsion, un décalage entre le message qu'on veut faire passer en EMC et de manière générale dans les classes et la réalité dont l'école fonctionne. L'école n'est pas une forteresse, elle est aussi traversée par des phénomènes de discrimination, par des phénomènes inégalitaires. Tout ce que pourra faire l'école pour s'améliorer de ce point de vue-là, sera aussi bon en termes de citoyenneté, à mon sens. Parce que les élèves ne sont pas dupes de l'écart entre les deux.
Sur la question de la mobilisation des valeurs de la République, je pense que c'est important de signaler ceci, parce que ma collègue parlait de routine. Et si vous voulez, le janvier 2015, donc c'est le grand plan de mobilisation, mais c'est déjà, en fait, cette notion-là est déjà extrêmement présente depuis quelques années, tout comme l'éducation à la laïcité. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on comprend, c'est que on est dans un acte routinier quand on mobilise pour les valeurs républicaines après les attentats. Donc, les attentats vont être scolarisés dans justement un registre qui est déjà routinier des politiques éducatives. Voilà. Donc, et c'est là où on va mettre l'accent sur la laïcité, alors que les enseignants ont parlé également de l'explication, notamment des caricatures, et qu'il n'y a jamais eu de plan de formation nationale. C'est ce qu'on dit aussi dans le livre sur la question des caricatures. Justement, c'était un vrai besoin pour les enseignants. Donc, on est encore une fois à côté des attentes des enseignants là.
En décalage, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Géraldine Bozek, Sébastien Ledoux pour cet échange qui prolonge l'échange qu'on a eu avec Jérôme Truc, qu'on a cité à deux reprises, et Fabien Truyon, qu'on a reçu lors de la dernière mission autour de leur ouvrage Grands Ensembles sur la ville de Grigny. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée en collaboration avec Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Moudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Et retrouvez ce podcast, comme tous ceux de Cas d'École, sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les plateformes de podcasts disponibles.